Vous écoutez France Culture.
Bonjour et bienvenue à tous dans Science Publique. Nous retrouvons aujourd'hui l'émission mensuelle de Science Publique réalisée dans le cadre du partenariat de l'ensemble des émissions de Science sur France Culture avec le magazine Science et Vie. Comme toujours, vos réflexions et commentaires sont vivement attendus sur le site de Science Publique au sujet de notre débat d'aujourd'hui. Une formule mathématique universelle existe-t-elle ? C'est le rêve plus ou moins conscient de tout scientifique, découvrir une loi universelle permettant de comprendre et de prévoir les phénomènes naturels de notre univers. Rares sont ceux qui y parviennent, et rares aussi sont les équations pouvant prétendre à une forme d'universalité. En physique, par exemple, même la théorie de la gravitation d'Einstein reste incompatible avec la mécanique quantique. Pourtant, en 1763, une formule est publiée après la mort de son auteur, un pasteur britannique de l'église presbytérienne dénommé Thomas Bayes. Il s'agit d'une loi des probabilités qui porte désormais son nom, le théorème de Bayes. La même équation est découverte en 1774 par le grand mathématicien français Pierre-Simon Laplace, sans qu'il connaisse, semble-t-il, le théorème de Bayes. Étrangement, la formule somnole ensuite pendant plus de 3 siècles. Et puis soudain, vers l'an 2000, le nombre de publications scientifiques qui la mentionnent explose. Il passe alors d'environ 5000 par an à plus de 25000 en 2010. Il faut dire que les domaines d'application de cette formule, presque aussi simple que celle de Newton, sont extrêmement nombreux. Elle permet aussi bien de mieux comprendre certains événements de l'évolution des espèces que certains mystères de l'univers. Elle peut être utilisée par la météo ou la climatologie, la prévision des catastrophes naturelles, la génétique des maladies, les propriétés de la matière, mais également les sciences cognitives. Pour Stanislas Dehaene, professeur de psychologie au Collège de France, nous serions même en pleine révolution bayésienne dans ce domaine. Que nous dit précisément ce théorème de Bayes ? D'où vient son caractère universel ? N'est-il pas exagéré par certains ? Pourquoi une telle formule magique a-t-elle dormi pendant 3 siècles avant que son utilisation n'explose aujourd'hui ? Quels sont les cas où son utilisation apporte le plus de lumière ? N'est-elle pas cousine de la logique floue formalisée en 1965 par Lofti-Zadeh et utilisée en intelligence artificielle ? Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui dans Science Publique, en direct depuis le studio 1061 de la Maison de la Radio, Pierre Bessière, chercheur au laboratoire de psychologie de la perception et de l'action au Collège de France, Christian Robert, professeur au Centre de recherche en mathématiques de la décision de l'Université Paris-Dauphine, Dick Zerwas, directeur de recherche au CNRS IN2P3, au laboratoire de l'accélérateur linéaire à Orsay. Et nous sommes également avec Hervé Poirier, rédacteur en chef du magazine Science et Vie, avec lequel nous avons préparé cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez bien entendu nous communiquer vos commentaires, vos réflexions et vos témoignages sur le site de Science Publique sur franceculture.fr. Hervé Poirier, bonjour.
Bonjour.
Donc avant d'entendre les explications de nos invités scientifiques sur la formule de Bayes, pouvez-vous nous dire comment vous êtes arrivé, vous, à la réalisation de ce dossier dans Science et Vie ?
Faut reconnaître que ça n'a pas été sans peine. On a mis longtemps à comprendre l'ampleur de cette formule assez déroutante. Moi, la première fois que je l'ai rencontrée professionnellement, c'était il y a 5-6 ans, lorsque j'avais rencontré des spécialistes de la mécanique quantique qui pensaient que cette formule de Bayes était le socle à partir duquel on pouvait réinterpréter tout le corpus de cette théorie physique de l'infiniment petit d'une façon radicalement nouvelle, qui consiste à dire que ça ne décrit plus la matière, mais les informations que l'on peut soutirer sur la matière. Et à partir de cette petite formule, il reconstruisait tout le formalisme de la mécanique quantique, et ça a été l'occasion d'un gros dossier qu'on a fait il y a 5-6 ans. 2 ans plus tard, je me souviens avoir rencontré un astrophysicien qui me disait « C'est incroyable, l'astrophysique bayésienne voit des choses dans le ciel qu'il est impossible de voir avec la statistique classique. » Quelques mois plus tard, c'est dans le domaine de la perception, de la psychologie, de la neurologie que nous nous sommes rendus compte à Science et Vie que cette formule était, avait une, se répandait comme, une, comme un virus à travers tous les laboratoires. Et nous, nous sommes donc décidés de la regarder en face, de la prendre en face, ce qui n'avait jamais été à proprement parler fait, pour essayer de dresser l'ampleur du nouveau paysage qu'elle est en train de dessiner dans, le, dans, le, dans la communauté scientifique. Donc des sciences de la nature jusqu'aux sciences de la perception, psychologie, neurologie, en allant même peut-être jusqu'à une réinterprétation de ce que c'est que la mécanique quantique, c'est-à-dire ce que la matière la plus élémentaire et son comportement peut-être pourrait s'expliquer beaucoup plus simplement à l'aide de cette petite formule vieille de 250 ans. Donc.
Alors Christian Robert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le mathématicien de notre petite équipe aujourd'hui et donc il vous revient peut-être la tâche naturellement de nous donner une première explication sur la formule de Bayes, c'est-à-dire comment expliquer à la radio, alors sachant que la formule est sur le site de l'émission, sur franceculture.fr, donc nos auditeurs peuvent s'y référer pour la visualiser, mais comment en parler, comment expliquer son contenu et qu'est-ce qu'elle nous dit cette formule ?
Bon, alors, d'abord les mathématiques... C'est une formule très simple, c'est quasiment une définition plutôt qu'un théorème. C'est-à-dire, ça permet de trouver la probabilité d'un certain événement, appelons-le A, sachant qu'un autre événement, B, s'est produit, en partant des probabilités inverses, c'est-à-dire la probabilité que l'événement B se soit produit, sachant que l'événement A s'est produit. Donc en fait, il y a une inversion des conditionnements dans cette formule qui... peut être expliqué par le changement de la probabilité de l'effet sachant les causes à la probabilité des causes sachant les effets, ce qui conduit à ces applications énormes. Mais d'un point de vue mathématique, c'est une formule vraiment très très simple, qui est une formule de base dans les probabilités conditionnelles. Ensuite, elle a été étendue au cas des variables aléatoires, donc de n'importe quel phénomène qui peut prendre un nombre infini de valeurs, sachant d'autres variables aléatoires, toujours sur le même thème, d'inverser le conditionnement, c'est-à-dire ce qu'on observe et ce qu'on ne connaît pas va changer de position d'un côté et de l'autre de la formule.
Donc sachant que pour la visualiser un petit peu, elle est constituée de très peu de termes, cette formule. Donc c'est la probabilité que A se produise sachant B, sachant qu'un autre événement B s'est produit ou peut se produire, c'est là que... Je ne serais pas absolument catégorique. Et puis, donc c'est le produit de deux probabilités divisé par une troisième probabilité. En fait, donc, il y a quatre termes dans cette formule, ce qui est très peu.
Oui.
Non, je dirais, c'est pas comme certaines formules extrêmement compliquées, avec même beaucoup de termes, etc.
Là, c'est une formule c'est une assez définition. Simpliste. Il faut voir ça comme une définition. C'est-à-dire qu'en fait, vous partez de la probabilité du tout, vous divisez par la probabilité qui est au dénominateur de l'événement qui s'est produit, et ça donne la probabilité du deuxième événement, sachant le premier événement.
Alors comment se fait-il quelqu'un qui était mathématicien, certes, mais aussi ecclésiastique, en 1763, a pu avoir cette idée à l'époque ? Est-ce qu'on sait un petit peu quelle est la démarche qui l'a conduit à trouver cette formule ?
On connaît très peu de choses sur Bayes, on n'est même pas sûr de la date de sa naissance. On pense que c'est 1701, parce qu'en fait on trouve... trace de son passage à l'université d'Édimbourg vers 1720. Donc en fait, en soustrayant les années, on pense qu'il est né vers 1701. On sait qu'il est rentré à la Royal Society autour de 1748. Et de son vivant, il a publié, je crois, deux articles mathématiques dans les Proceedings de la Royal Society qui étaient totalement sans rapport avec les probabilités. Donc en fait, on n'a pas tellement d'informations sur la raison pour laquelle il a utilisé cette formule.
Il meurt et ensuite, juste après, cette formule est publiée.
Son ami Richard Price la publie 2 ans après sa mort, dans un article qui d'ailleurs comprend plus de matériel fourni par Price que par Bayes lui-même. Alors dans l'article qui a donné donc le nom à cette théorie bayésienne, le problème est... un problème de billard, qui est un jeu anglais de l'époque, lançant un grand nombre de boules de billard, on regarde combien de ces boules sont à droite d'une boule initialement lancée, et de cette information sur le nombre de boules qui sont à droite, on tire à une probabilité sur la position de la boule initiale. Donc ça, c'est le problème traité intégralement et correctement dans l'article de Bayes. Et c'est seulement par Laplace
Voilà, alors continuons l'historique, en fait, effectivement, le deuxième épisode, 1774.
Apparaître la généralité de cette formule. C'est-à-dire qu'en fait, l'article de... c'est à nouveau paradoxal, l'article de Bayes n'a pas du tout d'impact statistique. C'est-à-dire qu'en fait, il faut distinguer la version statistique de la version bayésienne du théorème de Bayes. Donc, du point de vue mathématique, le théorème de Bayes est une simple définition. D'un point de vue statistique, il permet de retourner aux causes des effets et donc d'élaborer des théories ou de rejeter des théories au vu des observations. Donc en fait, on va conditionner les valeurs probables d'un paramètre sachant les observations qui viennent du modèle dirigé par ce paramètre. Et donc Laplace établit sans doute de façon indépendante, à peu près 10 ans plus tard, le théorème de Bayes dans l'un de ses écrits. Donc qui va pour un temps s'appeler Bayes Laplace. Mais en fait, comme Laplace est non seulement un mathématicien, mais aussi un physicien, un astronome, il voit les applications de ce théorème dans le problème de l'inférence statistique. Et donc, par exemple, il va appliquer le théorème de Bayes aux naissances, hein, séparant les garçons des filles, à la probabilité d'avoir un garçon... Comme prochain enfant, sachant les statistiques de naissance. Donc, il va remonter aux paramètres des modèles grâce à cette formule de Bayes.
Très bien. Dick Zerwaze, bonjour.
Bonjour.
Donc, on a parlé, et Hervé Poirier a mentionné la physique quantique. Vous, c'est votre domaine. Vous travaillez donc à l'accélérateur du laboratoire, de l'accélérateur linéaire d'Orsay. Et quel est votre usage, votre perception de cette formule de Bayes?
Voilà, donc au laboratoire de l'accélérateur linéaire, nous on travaille aussi sur le grand accélérateur au CERN, au LHC. Donc là, il y a énormément de données qu'on a recoltées et qu'on essaie d'étudier afin de comprendre justement ce que Hervé Poirier a décrit comme la matière et les particules élémentaires et ses interactions. Et donc, dans ce contexte, on a typiquement deux méthodes statistiques qu'on utilise, la méthode classique, qu'on appelle souvent fréquentiste, mais aussi les méthodes bayésiennes. Donc, l'application bayésienne, donc là, je me permets d'être un petit peu moins rigoureux que Christian. Donc, on se pose essentiellement, il y a deux types de questions qu'on veut élucider. Donc, un, c'est par exemple, vous proposez, nos collègues théoriciens nous proposent d'expliquer ce qu'on voit, ce qu'on observe avec une nouvelle théorie. Ils prédisent éventuellement une nouvelle particule. Donc, la question,
ça
c'est...
Ça me fait penser à quelque chose.
Oui, voilà, par exemple...
par exemple, le
boson du 4 juillet, le boson de Higgs. Donc, si on avait fait cette émission avant le 4 juillet, on aurait été un petit peu embêté parce qu'on était un petit peu incertain à l'époque. Est-ce qu'on a déjà quelque chose ou est-ce qu'on n'a pas quelque chose? Et le traitement de savoir si on a observé quelque chose, c'est un traitement statistique. Le nombre d'événements par rapport au bruit de fond. Donc... là, il se pose la question, mais qu'est-ce qu'on applique? Et donc là, malheureusement, M. Bayes et Laplace n'ont pas gagné cette bataille. Là, on a choisi de rester un peu fréquentiste sur ça. Mais il y a d'autres exemples où on cherche donc des particules qui sont prédites au-delà de ce qu'on appelle notre joli modèle standard de physique des particules qui décrit les particules élémentaires et leurs interactions. Et donc, dans ces domaines étendus, il y a tout à fait la place de Bayes qui est utilisée pour calculer, par exemple, la probabilité que pour une telle ou telle masse, est-ce que, compte tenu de la prédiction des théoriciens, est-ce qu'on peut exclure que les nouvelles particules ont une telle ou telle masse ou pas? Donc ça existe dans un certain domaine, dans un certain type de recherche, donc ce qu'on appelle grossièrement physique au-delà du modèle standard, mais pas dans tous les domaines au-delà du modèle standard, parce que là il y a aussi d'autres théories comme la supersymétrie, où il y a une sorte d'accord entre les grandes expériences ATLAS et CMS, où LHC, parce que si on a deux expériences, et une expérience utilise une approche fréquentiste pour la même, pour le même sujet, et l'autre utilise l'approche bayésienne, dans ce cas, c'est un petit peu difficile. Donc, on s'est mis d'accord que pour tout ce qui concerne donc, le fameux boson de Higgs et la supersymétrie, d'attaquer le problème statistique, donc en application, avec la théorie classique, fréquentiste, mais par contre, historiquement, les autres théories au-delà, bon, je dis les autres, mais ils ont une valeur aussi grande que la supersymétrie, là, on a historiquement une application plutôt des techniques bayésiennes pour déterminer les limites sur les masses des particules, sur leurs interactions, c'est-à-dire de quantifier notre connaissance de ces nouvelles théories.
En gros, est-ce qu'on peut dire que c'est une espèce de vérification d'une théorie par les mesures que l'on peut faire et
oui,
donc de rapprocher
fait.
Ces deux univers qui sont le travail théorique et puis les expériences
tout
réelles.
Tout à fait, ça rapproche les deux mondes, si vous voulez. Peut-être à la différence que ce qui avait été dit par Hervé, c'est nous on voit plus l'approche bayésienne comme un algorithme et pas comme la théorie en soi. La théorie qui décrit tout ce qu'on sait, avec lequel on fait nos prédictions, ça c'est une théorie quantique des champs, le modèle standard, ou peut-être au-delà de ça, mais pour comparer ce qu'on voit dans les données et faire face aux prédictions théoriques, on utilise l'approche bayésienne ou fréquentiste.
Très bien. Pierre Bessières, bonjour.
Bonjour.
Avec vous, on change complètement de domaine, hein, puisqu'on passe à la psychologie et aux sciences cognitives. Alors, quelle est, dans votre domaine, justement, l'utilisation, l'usage de la formule de Bayes?
Alors, déjà, je vais peut-être proposer un point de vue un petit peu différent sur cette formule, qui est
je vous en prie.
De faire un parallèle avec la logique. Donc, en fait, depuis Aristote, on essaye de normaliser le raisonnement rationnel. Donc Aristote faisait ça avec les syllogismes, donc les hommes sont mortels, les Grecs sont des hommes, donc les Grecs sont mortels. Ensuite, on est venu, si vous voulez, à une forme moderne de ça qui est si je sais A et que je sais que A implique B, donc je peux déduire B. Et ces formules de rationalisation du raisonnement ont eu une histoire formidable, puisque aussi bien philosophique, mathématique, technologique. D'une part, parce que ça a donné naissance à la logique, qui sont un espèce de fondement des mathématiques. Et puis, surtout, récemment, ça a donné naissance aux ordinateurs, qui sont entièrement fondés sur l'application de ces formules logiques de base extrêmement simples. Alors, le problème, c'est que avec la logique, on ne peut traiter que des informations parfaitement connues, vraies ou fausses, ce qui est une grosse limitation assez rapidement. Et donc, la formule de Bayes peut être vue comme un peu une extension de la logique, une extension de ce A implique B, quand on a affaire à des informations incertaines et incomplètes. Si vous voulez, je peux prendre un petit exemple très très simple. Si on suppose qu'on a un nombre, donc A c'est X, ce nombre peut être divisible par 4, ça implique que X va être divisible par 2, B. Et si je sais que X est divisible par 4, je peux en déduire, avec la logique, que X est divisible par 2. Par contre, si je sais que ce nombre est divisible par 2, avec la logique, je ne peux rien dire sur le fait qu'il soit divisible par 4. Alors que pour tout le monde, intuitivement, on comprend bien que si dans l'ensemble de tous les nombres, on sait déjà qu'on a un nombre qui est pair, il y a beaucoup plus de chances pour qu'il soit divisible par 4 que si on ne sait rien à propos de ce nombre. Et ça, seules les probabilités et la formule de Bayes vous permet de calculer que la probabilité qu'un nombre soit divisible par 4 est plus forte quand il est pair, quand on sait qu'il est pair, que quand on ne sait rien.
Et cette formule peut donner des résultats précis, c'est-à-dire une probabilité précise
absolument,
de cet événement.
Absolument. Là, on va arriver à quantifier et voir que je pense que c'est deux fois plus probable.
Que si l'ordre n'est pas
pair. Je n'ai pas fait le calcul, mais ça doit être à peu près ça. Que si on prend un entier quelconque. Voilà.
vous rappelle que vous écoutez Sciences Publiques sur France Culture en direct depuis le studio 1061 de la Maison de la Radio et que nous débattons aujourd'hui autour de la question « Une formule mathématique universelle existe-t-elle » avec nos invités Pierre Bessière, directeur de recherche CNRS au laboratoire de physiologie et de perception de l'action au Collège de France, Christian Robert, professeur au Centre de recherche en mathématiques de la décision de l'Université Paris-Dauphine, Dick Zerwas, directeur de recherche au CNRS IN2P3, au laboratoire de l'accélérateur linéaire R à Orsay, et Hervé Poirier, rédacteur en chef du magazine Science et Vie. Alors on a déjà eu quelques exemples d'applications, Hervé Poirier, mais on voit que ça peut aller jusqu'à des choses extrêmement simples, comme de savoir faire des prévisions météo à partir de l'observation. Je crois que c'est un des exemples que vous prenez dans votre dossier, l'observation d'un trottoir qui est mouillé ou pas.
Quelle est la probabilité que le trottoir qu'il ait plu, sachant que le trottoir soit mouillé quand je sors le matin? On se doute bien qu'elle est beaucoup plus forte que si le trottoir n'est pas mouillé, mais combien exactement? Je le calcule. Mais comme dit M. Bessière, dès qu'il y a de l'inconnu, de l'incertitude, on ne peut plus utiliser la logique formelle. Donc il faut s'en remettre à ses a priori, essayer de prendre toutes les données disponibles pour recalculer, réactualiser nos savoirs. Et c'est pour ça que dans tous les domaines de la science, dès qu'il y a des phénomènes un tant soit peu complexes, la formule de Bayes arrive comme le Messie pour séparer les bonnes hypothèses des impasses théoriques et éclairer donc des découvertes, des validations de modèles, etc. Donc on avait fait un jeu à la rédaction, c'est on prend un domaine au hasard et on regarde dans les 3 derniers mois si avec la formule de Bayes, il n'y a pas eu une découverte importante qui a été faite. Et quel que soit le domaine, on tombait sur une nouvelle application de la formule bayésienne en génétique, en théorie de l'évolution, en climatologie. Quel que soit le domaine, on a fait le jeu, on n'a jamais trouvé un domaine où il y a une complexité et où Bayes, depuis 10 ans, n'est pas en train de montrer toute sa puissance.
Alors c'est peut-être le mot que vous venez de prononcer, peut-être une des réponses à la question qu'on peut se poser, de savoir pourquoi cette formule a été moins utilisée qu'aujourd'hui pendant des siècles et que d'un seul coup, en ce début du 21e siècle, il semblerait qu'il y ait une utilisation de plus en plus grande. Est-ce que c'est justement parce qu'on est entré dans beaucoup de domaines, dans ces domaines de la complexité, plus que peut-être au cours du XXe siècle? Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Qui veut nous éclairer sur cette question?
Je dirais qu'il y a plusieurs raisons.
Pierre Bessière.
Il y a plusieurs raisons, à mon avis. Une des raisons, par exemple, c'est de s'intéresser aux systèmes qui perçoivent et qui agissent et qui sont immédiatement confrontés à ce problème de traiter de l'information incomplète et incertaine. On peut prendre un petit exemple avec les échecs. Il y a deux problèmes aux échecs. Il y a jouer aux échecs, que nous, on considère comme un problème extrêmement difficile, vu que tout le monde ne peut pas devenir grand maître international des échecs. Or, les ordinateurs, en gros, sont définitivement champions du monde, à tel point qu'il n'y a plus de compétition organisée, disons.
Depuis peu, quand même.
Depuis
quelques
peu,
années.
Mais on peut dire qu'en gros, les ordinateurs battent les hommes, y compris les meilleurs, pour jouer aux échecs. Maintenant, vous pouvez voir un autre problème qui est jouer avec les échecs, c'est-à-dire le problème de déplacer les pièces sur un échiquier. Et en gros, un enfant de 4-5 ans est capable de faire ça avec n'importe quelle pièce, n'importe quel échiquier, n'importe quelle lumière. Il peut le faire dans une piscine, il peut le faire avec des pièces aussi grandes que lui, enfin, s'il est capable de les soulever. Donc, dans n'importe quelle condition. Aucun robot n'est capable de faire ça. Pourquoi ? Parce que dans le cas de jouer aux échecs, le problème est parfaitement défini, parfaitement limité. La logique va très bien pour le traiter. Dans le cas de déplacer les pièces dans toutes ces conditions possibles, le problème est extrêmement mal posé. Il y a énormément d'informations qui manquent et elle est très incertaine.
Et quand vous dites qu'un robot n'est pas capable, c'est-à-dire qu'il ne saura pas quel mouvement faire.
On peut construire un robot qui va être capable de déplacer les pièces sur un échiquier pour un échiquier donné dans des conditions de lumière données, etc. Mais la variété des possibilités, aucun robot n'est capable de traiter comme le fait l'enfant de 5 ans.
Je voudrais rajouter juste un point
Christian Robert, pardon.
Sur le fait que En fait, le théorème de Bayes, en tant que fondation des statistiques, était la référence jusqu'au début du XXe siècle. Donc, si on prend par exemple Poincaré, Poincaré a défendu Dreyfus lors de l'affaire Dreyfus, et l'argument qu'il a utilisé lors du procès était un argument intégralement bayésien. Donc en utilisant la formule de Bayes, la probabilité que Dreyfus soit coupable, sachant les pièces à conviction qu'on avait apportées contre Dreyfus. Et donc c'est ce qui a fait la décision finale d'innocenter Dreyfus.
C'est toujours utilisé dans la justice,
à l'ouvrir ? Oui, le terme de Bayes est fondamental pour identifier des preuves ou des indices de preuves et remonter à la culpabilité. C'est-à-dire, si la personne est coupable, alors la probabilité d'avoir telle preuve vaut telle valeur. Si elle est innocente, alors cette probabilité vaut telle valeur. Donc il faut revenir à la probabilité que la personne soit coupable, sachant les indices qu'on a pu accumuler. Donc première chose, c'est que c'est resté un des fondements de la statistique jusqu'au début du XXe siècle. Ensuite, avec la formalisation de Kolmogorov des probabilités, on a commencé à remettre en doute l'approche bayésienne parce qu'elle avait cet aspect subjectif, c'est-à-dire qu'en fait la probabilité n'était pas fondée sur une stabilisation des fréquences, c'est-à-dire que les fréquences convergeaient lorsqu'on accumulait les observations vers la véritable probabilité. Dans l'approche bayésienne, la probabilité dite a priori, qui sert à quantifier nos intuitions, est fondée sur des choses plus vagues, qui ne sont pas blanche ou noire, et qui peuvent varier. Donc en fait, ça n'a pas le même fondement que la probabilité au sens de Kolmogorov. Et donc au cours du XXe siècle, la statistique bayésienne est passée dans une sorte d'oubli partiel. Il restait toujours des bayésiens, mais c'était une minorité.
Une communauté minoritaire.
Un peu en danger.
Et oppressée.
Et oppressée.
Opprimée.
Pour ces raisons-là, en fait, il y avait une sorte d'objectivité à l'approche classique, surtout par des personnalités aussi... aussi dominante que Fischer, qui essayait d'imposer son point de vue sur toute la communauté. Et c'est seulement, disons, grâce à l'émergence de nouveaux outils de calcul que la statistique bayésienne est sortie de cet oubli partiel. C'est-à-dire, au cours des années 80-90, on a vu apparaître de nouveaux algorithmes de calcul qui permettaient de traiter à la fois de modèles complexes et de manipuler ces espaces de paramètres qui servait à calculer des probabilités bayésiennes. Donc, c'est des algorithmes fondés sur les chaînes de Markov, hein, c'est-à-dire des explorations locales d'un espace très complexe qui donnent, au bout d'un certain temps de calcul, une vision globale de cet espace et les probabilités correspondantes aux zones importantes et aux zones négligeables.
Xerwas, est-ce que ça a été le même processus en physique ?
Je crois, si vous voulez, le joie de l'un, c'est un peu l'hésitation de l'autre, parce que un des ingrédients de la théorie de Bayes, c'est justement donc le Bayesian prior, donc quelque chose subjectif. Et donc dans notre domaine, donc physique des particules, justement ça passait très 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 mal pendant des décennies. Et effectivement, parce que imaginez, vous demandez à un jeune chercheur de présenter les résultats, voilà, donc j'ai trouvé une particule supersymétrique si j'utilise un Bayesian prior qui est quadratique. Et s'il est linéaire, ou etc. Donc comment est-ce qu'on peut prouver, dans ce cas, la problématique explicite, c'est comment est-ce qu'on peut prouver que le résultat qu'on veut être objectif ne dépend pas du choix subjectif qui peut entrer là-dedans. Donc normalement, s'il y en a assez d'informations, dans ce cas, je crois qu'on peut prouver que le résultat final ne dépendra plus de ce choix initial, si on fait assez d'itérations en rajoutant de l'information. Mais initialement, ça, c'est toujours quelque chose qui choque. Et je crois que ça, c'est une des raisons, et c'est encore aujourd'hui, quand on discute pourquoi fréquentiste ou bayésien, ça, c'est une des raisons. Mais le point positif, c'est ce que Christian vient de mentionner, c'est justement les chaînes de Markov. Parce que nous, on a souvent le problème qu'on a très peu d'observables, donc des grandes incertitudes, et on doit sonder des espaces de paramètres avec 20 paramètres. Et si vous le faites à la classique, dans ce cas, par rapport à une approche de chaîne de Markov, c'est pas aussi performant, et c'est aussi une question d'efficacité.
Pierre Bessière.
Oui, une autre raison aussi peut-être plus pratique, disons, c'est l'explosion de la quantité de données disponibles. due à l'informatique, due à Internet, etc. Et une véritable question, c'est aussi bien d'un point de vue scientifique que d'un point de vue, je dirais, industriel et technologique, c'est que faire de toutes ces données ? Comment les exploiter ? Comment en tirer
parti ? Quoi leur faire dire ?
Quoi leur faire dire, voilà. Et les modèles bayésiens, probabilistes, sont un moyen très intéressant pour essayer d'extraire de l'information pertinente à partir de ces données.
Par exemple, dans votre domaine ?
Par exemple, si vous voulez, d'un point de vue industriel, on travaille sur la prévision des stocks et de la consommation dans les grandes surfaces.
Comment ajuster les stocks et la consommation ?
Les données, si vous voulez, c'est les tickets de caisse, par exemple. Donc, vous pouvez imaginer la quantité de données qu'il peut y avoir dans une grande surface. Et comment exploiter ces tickets de caisse, cette information, pour prédire combien d'achats vont être faits demain, la semaine prochaine,
pour ajuster
sur
les
tel
stocks,
ou tel produit, pour réapprovisionner, ajuster les stocks, avoir ni trop ni trop peu du produit. Et là, les outils bayésiens sont extrêmement intéressants parce qu'ils permettent de coupler la connaissance qu'ont les vendeurs. Par exemple, les vendeurs, ils vont apporter une connaissance qui n'est pas dans les données, qui est que le prochain week-end va être un week-end de vacances et donc il va y avoir, et qui va faire chaud parce que la météo nous le prédit, il va y avoir une ruée sur les appareils de climatisation. Voilà. Et de coupler ça avec l'analyse des tickets de caisse qui, eux aussi, recèlent énormément d'informations. Donc, mettre ensemble les connaissances des experts et les connaissances les informations qui sont dans les données.
C'est-à-dire donc là, la connaissance étant souvent, par exemple, une théorie et une observation, donc une expérience.
Absolument.
Et c'est, on retombe sur cette espèce de couplage qui souvent est assez distinct dans la science. Et c'est peut-être pour ça que la formule de Bayes est extrêmement utile et précieuse, Hervé Poirier.
Moi, je la vois comme une formule de l'humilité aussi. Le scientifique a des modèles en tête, il a des a priori, il a des connaissances, il a tout un savoir, tout un corpus qu'il a accumulé. Mais il se confronte à des données et il accepte que ces données puissent perturber ses idées ou puissent valider, puissent leur donner encore plus de force. Mais il les regarde comme tels sans vouloir à tout prix imposer ses propres modèles a priori, ni être totalement esclave de résultats qui peuvent aussi avoir leur part d'aléas. Donc c'est une formule de l'humilité, d'une science assez mûre, qui est prête sans doute à regarder les phénomènes complexes avec les outils dont elle dispose pour en tirer les informations les plus efficaces, les plus justes au regard des questions qu'elle se pose. Donc, moi, j'y vois cette science du troisième millénaire qui ne sera pas aussi peut-être arrogante que celle que parfois elle a pu l'être au XXe.
Alors, on a l'impression aussi que ça peut servir à valider une intuition d'un chercheur. C'est ce que vous nous avez un peu expliqué, Dick Zerwas. C'est-à-dire que très tôt, finalement, plutôt avant qu'on ait un nombre d'informations qui peut permettre de faire des calculs quasi exacts dans certains domaines, cette intuition qui restait purement intellectuelle et qui ne pouvait pas se formaliser forcément par rapport à une formule ou autre, d'un seul coup, elle est testable. En gros, est-ce que c'est ce qu'on peut dire de cette formule bayésienne, qu'elle permet de tester des intuitions, Christian Robert ?
Oui, je pense que c'était une des différences fondamentales avec l'approche statistique classique, qui est que à partir de ces a priori et des observations obtenues lors d'une expérience, on arrive à quantifier par ces probabilités a posteriori la validité ou l'invalidité de certains modèles. C'est-à-dire qu'en fait, on va poser à plat un certain nombre de choix de modèles possibles, donc d'hypothèses scientifiques à comparer, et les mêmes données vont venir augmenter la probabilité ou diminuer la probabilité de chacun de ces modèles. Et donc à la fin du calcul, on arrive à savoir si un modèle est beaucoup plus probable que les autres, ce qu'il valide pas absolument, mais qui lui donne une grande chance par rapport aux autres.
Alors il y a un très bon exemple, on y revient parce que c'est aussi un peu l'actualité encore récente, Dick Zerwas. Le boson de Higgs était exactement dans cette situation, c'est-à-dire c'est une hypothèse lancée il y a longtemps, 60 ans ou quelques 64. années, 64 ans pour être précis, Et est-ce qu'on lui a appliqué ce modèle bayésien pour savoir si finalement ça valait le coup de construire un accélérateur de particules à 5 ou 6 milliards d'euros afin de vérifier s'il existe?
Je crois là, et je crois le raisonnement venait plus des calculs à l'époque que d'une approche statistique. C'est-à-dire, avant de construire donc, le LHC, et avec les données qui ont été récoltées à son prédécesseur dans le même tunnel, donc réduisant un petit peu l'argent dépensé pour du contribuable. Donc, avec les expériences qu'on a faites à l'EP, on a fait un certain nombre de mesures, donc une vingtaine qui sont les plus importantes. Et ces mesures-là, on a pu les faire comparer avec les prédictions de la théorie. Et justement, donc là, on peut faire un choix de dire... on n'a pas encore vu le boson de Higgs, mais supposons qu'il est là, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette partie-là? Et comment est-ce que le boson de Higgs et sa masse va influer la prédiction des observations et ensuite les mettre en face? Donc là, on était, malheureusement, je dois le dire, c'était fréquentiste tout à fait, l'application. Mais l'application nous a permis de dire que, bon, à la fin, le boson de Higgs, s'il est bel et bien là, dans ce cas, il doit avoir une masse inférieure à 200 GeV ou quelque chose comme ça. À la fin, c'était 175 GeV. Et donc, il était tout à fait dans le domaine où on l'a trouvé. Mais... ça, c'était plus la cohérence de la théorie elle-même avec un traitement statistique, je dirais, plutôt classique, donc fréquentiste. Mais je pense qu'il y a une autre question qui est toujours intéressante à poser que beaucoup de collègues théoriciens se posent, c'est « mais quelle est la signification de cette masse du boson de Higgs qu'on a découvert ?» Donc d'abord, évidemment, on peut se poser la question, c'est « mais est-ce que c'est vraiment le boson de Higgs ? Il faut mesurer toutes ses propriétés, sa masse, ce qu'on appelle ses couplages, c'est-à-dire comment est-ce qu'il va se désintégrer avec la meilleure précision possible. »
Ça, c'est en train de se
faire. Ça, c'est en train de se faire aujourd'hui, et à chaque fois qu'on rajoute plus de données, notre connaissance s'améliore sur ce point. Donc, ça, c'est une question intéressante. Mais si on essaye maintenant de regarder un petit peu au-delà de notre domaine du modèle standard, qui est tout à fait content avec seul le boson de Higgs, mais si on va au-delà, donc, il y a des questions fondamentales qu'on se pose, d'où, jusqu'à quelle énergie est-ce que cette théorie et ce modèle est valable? Pourquoi est-ce que le boson de Higgs a une telle masse? Est-ce que ça nous dit quelque chose? Et donc là, il y a des collègues qui proposent donc la supersymétrie, qui prédit plein de nouvelles particules qu'on peut chercher directement. Mais on peut aussi prendre la poche de certains collègues, dire qu'on va regarder à partir d'une vingtaine de paramètres supersymétriques supplémentaires par rapport au modèle standard, comment est-ce qu'on va tomber, combien fois est-ce qu'on va tomber donc sur la bonne masse qu'on a mesurée. Et donc là, effectivement, donc ça c'est une approche vraiment bayésienne où on peut donc se faire une idée sur un modèle qui a des réponses supplémentaires et on peut se faire une idée, mais qu'est-ce que... où donc sont les signatures les plus prometteurs qu'on pourrait chercher en priorité?
Donc ça serait
ça peut être un guide, mais évidemment ça ne prouve pas que la supersymétrie existe. Ça, il faut la trouver encore.
Un guide et aussi donc un aide à la décision. Il se trouve que c'est justement, Christian Robert, un peu votre domaine. Est-ce que c'est utilisé aujourd'hui pour prendre des décisions? On voit bien que dans beaucoup de domaines, en particulier ceux que nous, on suit dans sciences publiques, c'est-à-dire ceux qui ont un rapport avec la science, la décision politique, par exemple, est très difficile à prendre. Est-ce qu'aujourd'hui, cette théorie est utilisable ou utilisée?
Alors, en fait, j'ai un exemple très très récent à propos de l'utilisation de l'approche bayésienne qui se rapproche un peu de cette question. C'est les élections américaines, donc l'élection de Obama. Et en particulier, une personne qui a fait vraiment l'actualité en dehors des deux candidats, c'est Ned Silver, qui est un blogueur du New York Times, qui a un blog qui s'appelle 538, qui réanalysait les sondages qui se publient tous les jours. Je pense qu'il y en a à peu près 6 par jour. D'un point de vue bayésien, c'est-à-dire en fait en les considérant comme apprentissage graduel sur l'opinion de la population, au lieu de les interpréter un par un comme des sauts d'humeur d'une population qui varierait aussi. Et en utilisant ce phénomène d'apprentissage et des outils bayésiens de lien entre ces informations, en fait, il a pu prédire non seulement l'élection d'Obama avec une probabilité qui, dans les derniers jours, tournait autour de 90%, mais les résultats...
Alors que les sondages, eux, étaient extrêmement serrés.
Continuaient à varier, étaient très serrés. Mais aussi à prédire les résultats état par état. Et aux élections précédentes, il avait prédit 49 états sur 50, et cette fois-ci, il a atteint 50 états sur 50. Et donc, en fait, il a démontré qu'il y avait la même...
C'est presque effrayant, je
les mêmes... Oui, en fait, ça faisait beaucoup peur aux commentateurs politiques, parce qu'en fait, ils voyaient retirer toute leur influence. Mais en fait, c'est un principe d'apprentissage. C'est-à-dire qu'en fait, il a exploité les mêmes données que tout le monde, mais en pondérant les instituts de sondage par leur fiabilité, par leur reproductibilité, par le nombre de personnes qu'ils avaient interrogées, en créant des liens entre les États, en utilisant des modèles spatiaux, et en considérant que les individus d'un État avaient à peu près les mêmes opinions que ceux des États voisins, en fait, il a amélioré la précision sans changer les données brutes. Et donc, c'est un bel exemple d'apprentissage pour conduire à ce processus de décision.
Vous écoutez Science Publique sur France Culture en direct depuis le studio 1061 de la Maison de la Radio, où nous débattons aujourd'hui de la question « Une formule mathématique universelle existe-t-elle » avec nos invités Pierre Bessière, directeur de recherche CNRS au laboratoire de physiologie de la perception et de l'action au Collège de France, Christian Robert, professeur au Centre de recherche en mathématiques de la décision de l'Université Paris-Dauphine, Dick Zerwas, directeur de recherche au CNRS et NDP3 au laboratoire de l'accélérateur linéaire à Orsay, et Hervé Poirier, rédacteur en chef du magazine Science et Vie. Alors Pierre Bessière, ça fait rêver ce que vient de nous raconter Christian Robert. On imagine que cet outil qu'apporte la formule de Bayes pourrait nous être plus utile que ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire plus peut-être même au niveau individuel, sur notre propre prise de décision, analyse de nos sensations, de nos intuitions.
Alors absolument, il y a tout un tas de travaux qui se font en sciences cognitives. Là, il y a une véritable explosion du modèle bayésien.
Ce que dit Stanislas Dehaene dans Sciences et Vie.
Tout à fait, il va consacrer son cours de cette année au bébé bayésien, parce qu'on a trouvé des choses absolument extraordinaires, où des bébés qui sont âgés de quelques mois montrent qu'ils sont surpris en faisant des calculs probabilistes. Donc on leur montre une urne qui contient des boules rouges et blanches, beaucoup plus de rouges que de blanches. Et quand on leur sort une boule blanche, ils sont surpris. Donc ils ont une estimation de la probabilité du fait que la boule qui va être tirée va être rouge ou blanche. Ce qui, à 4 mois ou 5 mois, c'est... absolument formidable.
Ça veut dire qu'ils ont un moteur bayésien dans le cerveau déjà à cet âge-là.
Capables d'estimer ces probabilités. Après, comment ils font exactement, c'est une autre question. Mais
oui, donc je vous demandais quelles étaient les utilisations au-delà de la recherche même. Est-ce qu'on peut imaginer l'utilisation par tout un chacun de ces modèles-là. Non, en fait, est-ce que c'est transposable dans la vie quotidienne, en fait, pour le dire brutalement?
On est tous des Monsieur Jourdain, c'est-à-dire qu'on utilise déjà des choses qui sont bayésiennes ou pas très loin d'être bayésiennes, comme par exemple ce qui trie vos courriers électroniques et élimine les spams, c'est-à-dire les mauvais courriers qui ont des modèles bayésiens à l'intérieur. Dans les systèmes de localisation que vous avez sur vos téléphones portables qui mettent ensemble l'information des GPS, l'information des antennes, etc. C'est des modèles très proches des modèles bayésiens. D'ailleurs, vous voyez l'incertitude quand vous regardez le cercle de positionnement sur la carte de votre téléphone portable. Vous voyez le cercle grossir ou diminuer. C'est l'incertitude que vous avez sur votre position. Si vous utilisez les systèmes de compréhension de la parole qui commencent à se répandre par exemple sur les téléphones portables ou sur les ordinateurs, là encore c'est des modèles bayésiens
Pour décider de l'association entre tel son et...
Voilà, pour faire le lien entre les fréquences qui arrivent dans le micro et les mots enregistrés. Voilà. Il y a plusieurs étapes, mais c'est, la plupart sont faits avec des modèles probabilistes et des chaînes de Markov, comme il a été dit tout à l'heure.
Le tri du courrier est fait par un...
Christian Robert.
Par lecture automatique des adresses, se fait aussi par des schémas bayésiens, c'est-à-dire d'apprentissage en fonction du manuscrit, quel est le code postal correspondant.
Ça serait un formidable outil pour les voyants et les voyantes. N'est-ce pas?
Mais les scientifiques sont les premiers voyants, c'est-à-dire qu'ils essaient de prédire l'avenir.
Ben, c'est pour ça.
C'est bien le rôle des voyants. Ce serait des voyants rationnels dans ce cas-là, en effet.
Voilà, ça moderniserait énormément la boule de cristal.
Qui pouvait être vu comme un voyant, c'est là.
Christian Robert.
Le repérage de l'épave d'Air France, du vol qui est tombé en mer en venant du Brésil. En fait, donc les recherches avaient été abandonnées à un moment, et l'épave avait finalement été retrouvée par des techniques d'optimisation d'endroits qui étaient purement bayésiennes aussi.
C'est-à-dire pour affiner la localisation, pour réduire là aussi le cercle.
Faire une recherche totalement exhaustive ou aléatoire. L'apprentissage à partir des morceaux déjà recueillis, et donc la concentration des endroits de recherche s'est faite de façon bayésienne.
Alors ma question, c'est est-ce que c'est transposable dans par exemple un instrument? On a aujourd'hui des calculatrices. Est-ce qu'on pourrait avoir une calculatrice bayésienne dans laquelle on rentrerait quelques intuitions ou quelques informations et qui nous ferait un petit calcul pour nous dire, voilà, la décision la plus... faire ce que faisait ce blogueur américain dont parlait Christian Robert à l'instant, c'est-à-dire faire une analyse et faire aboutir à une décision. Avait parié, est-ce que vous y croyez?
Mais toute l'intelligence artificielle bayésienne est exactement dans cette démarche-là. Dès les années 80-90, la Poste, pour la reconnaissance automatique des chiffres sur les adresses, a utilisé des réseaux qui fonctionnaient sur un fonctionnement bayésien, c'est-à-dire qu'il apprenait au fur et à mesure à reconnaître toute la diversité des écritures manuelles pour devenir en quelques temps un expert en déchiffrage de chiffres. Donc, évidemment que les machines, c'est la porte ouverte à l'intelligence dans un monde complexe, dans un monde d'incertitude, pour non seulement battre les hommes aux échecs, mais pouvoir manipuler tout type de pièces dans toutes les conditions. Donc, les machines bayésiennes, les machines à calculer bayésiennes seront des robots.
Alors, ça existe déjà, mais ce que je voulais dire, est-ce que c'est transposable jusqu'à l'individu lambda, c'est-à-dire nous, comme instrument de la vie quotidienne, au-delà des systèmes que l'on utilise et qui, eux, utilisent comme le GPS et autres systèmes de localisation, mais est-ce qu'il y a des outils plus directement exploitables? C'est-à-dire, voilà, on a un problème personnel et on doit prendre une décision. Est-ce que c'est un instrument pourrait nous y aider?
C'est pas tout à fait à ça que je pensais, mais par exemple, les voitures à conduite automatique sont sans doute, en tout cas sur autoroute, pour dans pas très longtemps. Il y a déjà des prototypes qui fonctionnent bien, etc.
Avec l'accrochage à la voiture de devant, par exemple.
Voilà, même conduite autonome sur autoroute, peut-être une autoroute légèrement équipée pour pouvoir faire ça. En ville ou à la campagne, c'est beaucoup plus difficile. Mais sur autoroute, c'est vraisemblablement pour, disons, dans les 10 prochaines années. Et les algorithmes utilisés pour faire ce genre de choses sont de nature probabiliste parce que les informations qu'on obtient, encore une fois, sont très incertaines, mais elles sont très nombreuses. On peut les combiner entre elles pour conduire automatiquement la voiture.
Alors, dans les années 1980-90, on parlait aussi de la logique floue que j'ai citée en introduction, qui était apparue dans les années 60 et qui semblait répondre à peu près au même genre de situation, c'est-à-dire où on n'avait pas d'informations absolument exactes, mais où on devait, je me souviens de l'exemple de la conduite d'une charge au bout d'un bras de grue soumis au vent, ou de l'arrêt d'un métro, par exemple, de façon extrêmement souple. Mais ce sont des problèmes où interviennent de nombreux paramètres. Et à l'époque, on parlait de logique floue. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que c'est en lien avec les modèles bayésiens ou pas du tout? Je crois que vous êtes très dubitatifs tous.
Disons que c'est une question très polémique.
Ah bon? Alors, voilà, c'est involontaire.
Il y a un débat assez fort entre les gens qui soutiennent la logique floue et les gens qui font les probabilités. Donc, il existe un théorème qui s'appelle le théorème de Cox, qui date d'il y a une cinquantaine d'années. Donc, Cox est parti d'un certain nombre de postulats, 4 postulats, pour exprimer ce que devait être le raisonnement rationnel en situation d'incertitude. Et à partir de ces 4 postulats, il a démontré que seules les probabilités pouvaient vérifier ces 4 postulats. Donc, ce que les probabilistes disent aux gens qui font de la logique floue, vous faites autre chose que des probabilités. Donc, vous enfreignez un des 4 postulats. Discutons de quel postulat vous enfreignez. Parce que on peut contester les postulats, en prendre d'autres. Mais discutons de quel postulat vous enfreignez. Et on va voir s'il est important ou pas important.
Christian Robert.
Je voulais revenir sur le point de développement de systèmes experts dans les années 80. Parce qu'en fait, la recherche sur les systèmes experts, en particulier en médecine, est le moteur du développement de ces méthodes par chaîne de Markov, donc d'exploration locale, en particulier par les gens du Medical Research Council en Angleterre, David Spiegelhalter, c'est un des exemples, qui, en voulant mettre du Bayésien dans ces systèmes experts, vu que l'information était trop vaste, il y avait trop de composantes pour analyser le modèle globalement, ont travaillé composant par composant conditionnellement aux autres, donc on revient au point de départ que Bayes c'est une formule de conditionnement, et ont validé cette exploration locale conditionnelle en ce qu'on a appelé les méthodes MCMC, donc de Monte Carlo par chaîne de Markov, pour arriver au logiciel, le logiciel Bugs, qui est le grand logiciel actuellement de traitement des problèmes bayésiens, où bon, c'est pas manipulable sur une calculatrice, mais on rentre le modèle dans ce logiciel, on rentre nos a priori sur ce qu'on pense être le champ de variation des paramètres, et ensuite le logiciel, tout seul comme un grand, ressort les probabilités de chacune des hypothèses, les zones de variation sachant les données, et une information bayésienne totale.
Ça, c'est pas transposable sur une tablette pour l'instant, c'est ça que vous nous dites?
Ben, le problème n'est pas un problème de calcul, mais c'est plutôt un problème d'élicitation d'a priori. C'est-à-dire qu'en fait...
C'est la formalisation de...
En tant qu'individu, on n'a pas encore la façon explicite de poser nos a priori en termes de distribution de probabilité. Donc ça, c'est un apprentissage qui doit se faire. Mais
un jour, peut-être.
Un jour, peut-être, en manipulant ces outils, on pourra arriver à ça, effectivement.
Dick Zerwas.
Oui, donc justement pour les chaînes de Markov, moi je vois ça plus comme utilisateur du théorème de Bayes et dans l'application. Nous, ce qu'on a surtout remarqué, surtout si on parle de l'exploration donc d'un espace à beaucoup de paramètres où on a très peu d'informations, il reste toujours quelque chose où la personne physicien ou mathématicien doit intervenir, c'est de définir la fonction avec laquelle on va dans quelle direction. Et pour être vraiment efficace pour explorer, donc en tout cas dans les modèles que nous on explore, une connaissance donc de la théorie est vraiment nécessaire pour être efficace, parce que sinon on peut faire des horreurs, je crois. Donc
Hervé Poirier.
Moi, je reste marqué par le paradoxe qui tourne autour de cette formule, c'est qu'elle est donc très très utilisée dans les sciences de la nature pour comprendre le monde. On sent qu'elle est très présente dans notre propre pensée, dans la façon dont fonctionne notre cerveau pour appréhender le monde. Il n'empêche, elle garde un caractère totalement irrémédiablement déroutant quand on veut commencer à faire une calcul. Il y a une anecdote très 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 fameuse. À la fin des années 80, une scientifique qui fait une chronique dans un journal américain avait présenté un petit jeu qui était résolvable par la formule de Bayes, et elle donnait la réponse. Et il y a eu un nombre de prix Nobel qui ont fait des réponses offusquées à ce que de telles inepties soient écrites dans un journal, parce qu'ils n'arrivaient pas à recalculer la formule de Bayes qui, malgré son l'ampleur et la façon dont elle s'est insinuée et dans notre cerveau et dans toutes les sciences, reste assez mystérieusement difficile à mettre en application et à faire des calculs. Alors je parle en tant que journaliste et pas en tant que scientifique, bien sûr, mais je pense que j'ai l'impression que vous cherchez une sagesse bayésienne que le grand public pourrait avoir. Il y a encore ce mur quand même du petit calcul qui a l'air de rien, mais la probabilité d'un événement sachant un autre, qui dépend de la probabilité de l'autre sachant le premier, fait des nœuds encore au cerveau, en tout cas encore au mien.
Pierre Bessière.
Alors, ce qui est très curieux, c'est que ce que vous venez de dire est totalement vrai, c'est-à-dire qu'au niveau conscient, quand on demande aux gens de faire des calculs de type bayésien, c'est pas du tout évident. Par contre, si on regarde des tâches de perception et d'action, et qu'on mesure leur performance, qu'on mesure les endroits où ils se trompent, et ben là, on constate que totalement inconsciemment, la plupart du temps, leur système nerveux et leurs muscles ont fait un calcul bayésien.
C'est-à-dire que l'intuition fonctionnerait de façon bayésienne ?
Je ne sais pas si c'est l'intuition. Le contrôle sensoriel et moteur, disons, semble, dans beaucoup de cas, donner des réponses qui correspondent à une réponse probabiliste bayésienne, avec évidemment les bons a priori. En particulier, il y a tout le domaine des illusions qui est extrêmement exploré avec les probabilités. Donc, une particularité des tâches perceptives, c'est que vous avez, disons, un phénomène qui vous crée des sensations. Le problème, c'est que ce problème de perception est en général inverse et mal posé. Donc, inverse, vous devez aller avoir de la perception vers le phénomène, et mal posé parce que votre perception peut être expliquée par plusieurs phénomènes.
Donc, se trompe de phénomène.
Il y a une confusion possible. On doit choisir entre ces différents cas et on le fait avec des a priori. Et donc, ces a priori sont véritablement le critère de choix. Par exemple, on a passé des astronautes et dans des centrifugeuses. Donc, ils font des mouvements extrêmement compliqués. Ce qu'ils décrivent comme mouvement n'est pas la réalité du mouvement qu'ils ont eu. C'est interprété avec tout un tas d'a priori. Par exemple, l'a priori qu'ils ont la tête le plus souvent en haut, ce qui peut être totalement faux dans la centrifugeuse, mais ce qui est totalement vrai pour la plupart d'entre nous. Voilà.
Très bien, bien le débat de sciences publiques d'aujourd'hui s'achève. Merci à Pierre Bessière, Christian Robert, Dick Zerwas et Hervé Poirier d'y avoir participé. Vous pouvez approfondir ce sujet de la formule de Bayes en lisant le dossier que le magazine Science et Vie du mois de novembre lui consacre. Et d'ailleurs, c'est la couverture du magazine. Et sur le site de Sciences Publiques, vous trouverez la possibilité de réécouter cette émission pendant 1000 jours et de la podcaster pendant un an. Et bien entendu, vous pouvez nous faire part de vos réactions, commentaires et témoignages. La semaine prochaine, vendredi 16 novembre, vous retrouverez le Club Sciences Publiques qui se réunira autour de la question « Faut-il considérer les OGM comme des poisons ?» Il s'agit bien entendu de faire le point sur la publication par Gilles-Éric Serralini d'une étude sur les rats montrant qu'ils développent d'importantes tumeurs lorsqu'ils sont alimentés par du maïs transgénique et de l'herbicide. Cette affaire a fait grand bruit dans la presse et dans la communauté scientifique. Nous tenterons d'y voir plus clair sur la valeur de cette étude, mais aussi sur les problèmes réglementaires qu'elle a soulevés. Pour cela, le Club Sciences Publiques recevra Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement, députée européenne et présidente fondatrice du CRIGEN. Sciences Publiques, Dominique Briffaut, Élise Le, Marie Dalquier, Michel Albergonti. La science continue sur France Culture avec lundi prochain à 14h l'émission Continent Science de Stéphane Delis-Georges. Pour l'instant, il est bientôt 15h. Nous vous laissons en compagnie d'Abdelouhad Meddeb pour Culture d'Islam. Merci à tous, très bon après-midi sur France Culture et à la semaine prochaine.